Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette deuxième série d'émissions intitulée « Récits insolites de la Bible ». Ici Sébastien Daune, bibliste. Heureux d'être avec vous pour vous inviter à redécouvrir la Bible d'une façon inhabituelle et intéressante. Saviez-vous que la Bible nous parle d'une race de géants appelée Néphilim? Non? Eh bien, restez à l'écoute puisque leur histoire va nous permettre de mieux comprendre comment lire et interpréter la Bible. Mais avant ça, on va prendre un temps pour les commentaires que vous nous avez envoyés et pour vous donner l'orientation de cette deuxième série des récits insolites. Bonne émission! Aujourd'hui, j'ai choisi le courriel de M. Taillefer qui pose une question que portent probablement plusieurs auditeurs fidèles. Alors je la lis. Bonjour M. Daune. J'aimerais prendre le temps de vous féliciter pour votre émission à Radio Ville-Marie. J'ai cru comprendre que l'émission de la semaine dernière était la dernière de notre apprentissage. J'aimerais vous informer que j'ai beaucoup apprécié votre émission. Compte tenu du manque de temps pour faire la lecture de la Bible, votre émission me permettait de me ressourcer l'âme. Dans ce temps de détresse et de tumulte de toutes sortes, il était bon de suivre votre émission de semaine en semaine. J'espère que celle-ci nous reviendra pour une prochaine saison. Et c'est signé M. Taillefer. Alors d'abord, merci M. Taillefer d'avoir pris le temps de nous écrire. Je suis vraiment content de voir que l'émission est un lieu d'apprentissage et même de ressourcement pour vous. C'est justement ça le but. J'espère qu'il y en a d'autres aussi qui se retrouvent dans ces mots-là. Trouver des pages insolites de la Bible, je fais ça pour donner le goût de la lire et de mieux la comprendre, la Bible. Puis par la suite, de voir comment ça peut avoir un lien avec nos vies. Mais comme vous m'entendez présentement, vous devez en comprendre que l'émission a effectivement une suite. En fait, la série d'émissions que vous avez entendues était diffusée depuis septembre en pré-enregistrement. Et suite à la demande populaire, j'ai accepté de préparer une deuxième série d'émissions qui commence aujourd'hui même. Elle portera sur toutes sortes de récits, alors d'autres récits que la première série. On verra entre autres les 1000 femmes de Salomon, on verra Jonas, un prophète suicidaire, les 11 commandements, et non, pas les 10, etc. Mais ne vous y trompez pas, derrière l'apparence insolite de ces choix-là, il va se dégager une réflexion, en tout cas je l'espère, profonde sur Dieu, la spiritualité, la vie humaine, la fin du monde, ce qui compose notre vie de tous les jours dans le fond. Rappelons que le contenu de cette émission est en lien avec un livre, « Mais d'où vient la femme de Caïn » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Alors si vous embarquez, notre premier récit de la série concernera une race de géants présentée par le livre de la Genèse. Nous connaissons bien le récit de la création du livre de la Genèse. On y voit Dieu qui sépare le ciel, la terre, qui appelle à la vie les plantes, les animaux, les humains. Mais il y a des créatures dans ce livre-là dont on parle jamais. Probablement parce qu'elles nous font peur ou parce qu'on n'est pas très familier avec ça, parce que ça fait pas très réaliste pour un lecteur moderne de parler de ces géants-là. Il s'agit d'une race de géants qu'on appelle en hébreu Néphilim. On va écouter leur brève histoire qu'on retrouve au livre de la Genèse, au chapitre 6, des versets 1 à 4.
« Alors que les hommes avaient commencé à se multiplier sur la surface du sol et que des filles leur étaient nées, les fils de Dieu virent que les filles d'hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles de leur choix. En ces jours, les géants, Néphilim, étaient sur la terre et ils y étaient encore lorsque les fils de Dieu vinrent trouver des filles d'hommes et eurent d'elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, ces hommes de renom. »
L'élément le plus incongru dans ce récit, c'est sans doute l'origine de cette race-là. Ces géants sont le produit de relations entre ce qui est appelé les fils de Dieu et les filles d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, les rapports sexuels entre Dieu et femme, c'est un thème qui était largement répandu dans la mythologie grecque et proche-orientale. On voit ça ailleurs. L'expression qui est utilisée ici, le fils de Dieu, bon, plus tard, ça va être appliqué au roi d'Israël et même à Jésus, mais ici, il s'agit de quelque chose de différent. On semble pointer vers des puissances divines subordonnées à Dieu, des espèces d'anges. Mais qui sont ces fils de Dieu? Un écrit ancien qui n'est pas dans la Bible va nous éclairer sur cette légende-là. C'est le livre d'Énoch. Énoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Ce livre-là lui est attribué. Il fait partie de l'Ancien Testament de l'Église éthiopienne orthodoxe, mais il est rejeté par les Juifs et aussi par les autres Bibles des autres confessions chrétiennes. Toujours est-il que dans ce livre d'Énoch, il y a une section qui va parler de nos Néphilim, de nos géants. La première section du livre décrit la rébellion des anges déchus et les voyages visionnaires d'Énoch au ciel, aux enfers, en compagnie des archanges qui lui font diverses révélations. Alors, c'est assez spécial, ce livre-là. On va écouter le chapitre 7 du livre d'Énoch, où, justement, entre en jeu cette race de géants.
« Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles naissent élégantes et belles. » Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées, environ 150 mètres. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. »
Les fils de Dieu seraient donc des anges déchus qui se seraient accouplés avec de belles femmes pour donner naissance à des géants qui, selon ce livre d'Énoch, mesuraient environ 150 mètres de haut. C'est quand même assez grand. Et surtout qui se mettent à manger tout ce qu'ils trouvent, humains, animaux et autres. Que faire? Il y a vraiment un gros problème là. Heureusement, dans le livre d'Énoch, la fin de tout ça, c'est que les géants sont poussés les uns contre les autres par l'ange Gabriel et finirent par périr de leurs propres mains. Ils se battent entre eux. Les fils de Dieu ou anges déchus sont alors enchaînés sous la terre par l'ange Michaël, puis sont jetés dans le feu éternel. Ça, c'est le livre d'Énoch qui nous raconte la fin des géants de cette façon-là. Dans la Bible, les géants sont exterminés par le fameux déluge qui détruit tout, sauf les animaux et humains qui sont réfugiés dans l'arche de Noé. En fait, le court texte sur les géants qu'on a lu tout à l'heure figure dans le livre de la Genèse tout juste avant l'annonce du déluge au chapitre 6. On peut donc en déduire que ces géants-là font partie des causes du fléau. C'est pour ça que Dieu décide d'arrêter ça et de repartir à zéro. Ceci dit, on pourrait conclure que les géants sont alors tous morts dans le déluge. Pourtant, il y a plusieurs passages bibliques qui y font allusion par la suite. Par exemple, des siècles plus tard, après qu'ils soient sortis d'Égypte et qu'ils aient traversé le désert, les Hébreux entrent en terre promise. Et là, bien, ils vont trouver des peuples d'une telle grandeur qui vont tout de suite penser à ces Néphilim-là. Ces peuples-là, je vous les nomme, Émite, Anakite et Réphaïte. Alors, les explorateurs envoyés par Moïse, qui vont voir ces peuples-là d'une si grande taille, vont se comparer eux-mêmes à des sauterelles. Ils vont dire que, comparé à eux, nous, on est des pauvres petites sauterelles. Selon diverses interprétations juives, bien, ces peuples-là seraient des peuples cananéens, descendants des Néphilim, qui auraient survécu d'une façon ou d'une autre au déluge. D'ailleurs, il y a une légende qui est racontée dans le Talmud. Ça, c'est une compilation de discussions entre rabbins à propos de l'Écriture sainte. Mais dans ce Talmud-là, on parle d'un géant qui se serait caché sur le toit de l'Arche de Noé. Puis c'est lui qui aurait donné naissance à ces différents peuples que les Hébreux vont trouver en Canaan. D'autres racontent que certains anges déchus continuèrent à aller vers des femmes même après le déluge. Bien entendu, tout ça n'a rien d'historique, on n'a pas de fondement historique là-dedans, mais c'est des légendes qui sont racontées. Les rédacteurs des livres des Nombres et du Deutéronome vont parler de la progression du peuple hébreu vers la terre promise, et ils vont rapporter qu'en arrivant à Canaan, ils trouvent des peuples beaucoup plus grands qu'eux. Cependant, malgré la hauteur, la force de ces peuples-là, Dieu va les écarter et donne quand même la terre à son propre peuple, le peuple hébreu. La grande taille de ces peuples est utilisée en quelque sorte pour montrer toute la force de Dieu qui est plus grand qu'eux dans le fond. Un autre endroit dans la Bible où on voit ces géants, c'est dans le livre de Samuel, où on affirme que certains Raphaïtes trouvèrent refuge chez les Philistins et qu'il existait encore au temps de David. D'ailleurs, il y avait un fameux géant chez les Philistins. Vous le connaissez probablement, il s'agit de Goliath. Le récit décrit Goliath comme un homme de 6 coudées et 1 empan, environ 3 mètres, avec une cotte de maille en cuivre d'une masse de 5 000 sicles, soit 507 kilos. Alors, c'est assez gros. La lame de fer de sa lance pesait à elle-même 600 sicles. Ça, c'est plus de 6 kilos. Selon la tradition juive, Goliath serait en fait un des descendants des Néphilim. Cette tradition est fondée sur le fait que la ville d'origine de Goliath, elle s'appelle Gath, et c'est elle qui abritait les survivants des Anakites, décrits comme les descendants des géants qui habitaient la région de Canaan. On retrouve enfin des références aux géants dans les livres de la sagesse aussi, plus loin dans la Bible. Ces livres-là ont été écrits peu avant l'ère chrétienne, entre autres dans le livre de Baruch, le livre de la sagesse, le livre du Siracide. Et ces références-là vont mettre l'accent sur l'importance d'acquérir la sagesse et le discernement, contrairement à ces géants qui périrent dans le déluge malgré leur force et leur grandeur. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que retenir de l'histoire des géants dans la Bible? Pensez-y, puis on va s'en reparler tout de suite après un peu de musique. Thank you. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Pour résumer notre parcours d'aujourd'hui, nous regardons l'histoire d'une race de géants présentée dans le livre de la Genèse peu avant le déluge. On a vu qu'elle provenait d'un accouplement assez étrange entre des anges déchus et des femmes, puis que ces géants qui en résultaient ont fini par être éradiqués par le déluge. Je vous demandais qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, de cette histoire des géants dans la Bible. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour ma part, je pense qu'il faut d'abord se dire que le récit ne peut certainement pas se comprendre de façon littérale. On n'a aucun élément archéologique qui pourrait indiquer l'existence de ces géants-là. Alors si c'était vrai, ça serait vraiment passé. Il y aurait eu des squelettes qui seraient laissés là, on aurait eu des éléments, on pourrait voir quelque chose comme ça, mais non, on n'a rien de ça. Au contraire, ce récit nous permet de mieux comprendre la nature même des récits du livre de la Genèse. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut apprendre à lire ça parce qu'on voit que l'interprétation littérale, c'est peut-être pas la bonne interprétation quand on regarde la Bible. On voit bien que la Bible utilise et transmet des mythes populaires de l'époque. C'est là-dedans qu'on s'inscrit. Le livre de la Genèse, pourtant, a des vérités quand même. Le livre de la Genèse, pour un croyant, a des vérités à transmettre. Mais pour ce récit, on voit que l'exactitude historique, excusez-moi, n'est pas le motif principal de l'auteur. Il ne nous raconte pas ça pour nous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé au niveau historique. Il y a une autre vérité à nous faire comprendre. J'ai déjà dit qu'il n'existait aucune preuve archéologique de la présence des géants dans le monde. Pourtant, certains chrétiens évangéliques aux États-Unis, non seulement ils croient à l'existence de ces néphilim, de ces géants dans le passé, mais même, ils attendent leur retour à la fin des temps. Ça, c'est assez étrange. Et à quelque part, je vous parle de ça pour vous montrer la limite de l'interprétation littérale puis comment ça peut avoir un non-sens. Alors, ils vont interpréter le passage qui parle des Néphilim, des géants de la Genèse, avec un autre passage de l'Évangile de Matthieu, qui dit que les jours d'avant le retour du Christ seront comme ceux d'avant le déluge. Et qu'est-ce qu'il y a avant le déluge? Ben, c'est ce récit qui parle des géants. Alors, ces groupes vont aussi faire des liens avec d'autres choses, comme des témoignages d'humains enlevés par des extraterrestres et toutes sortes d'autres choses un peu bizarres qui nous montrent que c'est des extrapolations de lecture fondamentaliste d'un texte sacré qui mène à des aberrations. C'est un peu n'importe quoi. Ils essayent de nous montrer que la fin du monde arrive et ils prennent tout ça, mettent ça ensemble et nous disent « voilà la façon de lire les textes ». Bon. Pour ma part, je suis loin d'être convaincu. C'est beaucoup plus vraisemblable que ces géants, ces néphilim, appartiennent à des mythes populaires qui sont transmis par la Bible dans le but de nous expliquer la grande taille de certains groupes ethniques qui sont rencontrés par les Hébreux. Dans le fond, ceux qui écrivent ces textes-là essayent de nous expliquer comment ça se fait qu'il y a des personnes qui sont plus grandes que nous autour de nous, puis on trouve ça un petit peu étrange. Comment ce récit insolite peut nous donner à réfléchir aujourd'hui? Bon, c'est sûr qu'on n'a pas de géants à côté de nous, mais moi, je pense qu'on peut faire comme le livre de la Sagesse, qui nous disait que la force puis la grandeur, c'est pas les gages de la victoire, c'est pas ça qui est important. Au contraire, il y a d'autres valeurs beaucoup plus importantes, comme la sagesse, l'intelligence, le discernement, qui sont beaucoup plus valorisées par la Bible. Alors, c'est à nous de prendre ces valeurs-là et de les appliquer à nos propres vies. De même, je pense que ça nous aide à garder en tête que quand on lit la Bible, il faut savoir quel est le genre littéraire qu'on a devant les yeux. Est-ce qu'on a un récit qui essaye de nous raconter quelque chose d'historique ou est-ce qu'on est plutôt dans la mythologie et dans les légendes populaires? Une bonne question à avoir pour nos prochaines lectures. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission et que vous avez fait des découvertes avec nos réflexions. Pour aller plus loin, vous pouvez lire un livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn » que j'ai publié chez Novalis et Mediapol. Si vous avez des questions, des commentaires, bien vous pouvez faire comme M. Taillefer et prendre le temps de nous écrire. Nous-mêmes, on va s'engager à vous répondre et à prendre un temps au début de chaque émission pour vos réactions, parce que j'aime ça quand c'est interactif. Entre autres, vous pouvez me rejoindre par courriel. Le courriel habituel de la station, c'est auditoire@radiovm.com. Je vous le répète, auditoire@radiovm.com. La prochaine fois, on va explorer un texte qui est très important, les 11 commandements. Comment ça, 11? Pourquoi pas 10? Bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. En terminant, merci à Marie Laferrière pour ses lectures et merci à Alain à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.